Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Ces dernières années, la France a connu deux mouvements politiques et sociaux puissants, inédits et novateurs, par leurs objectifs et leurs formes d'action, les soulèvements de la terre et les gilets jaunes. Avant de parler des soulèvements de la terre, quelques mots sur les gilets jaunes. En avril dernier, j'ai reçu à ce micro Emmanuelle Rengoat, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier et chercheuse au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales, accompagnée de Pierre-Olivier Gomain, vidéaste auprès de la Maison des sciences de l'homme Sud. Ils sont les co-réalisateurs du documentaire « Des goûts de lutte, des goûts en deux mots », qui raconte les gilets jaunes par une série de témoignages. Vous pouvez écouter l'émission en podcast sur le site de Divergence. Emmanuelle Rengoat vient de publier un livre qu'elle a co-dirigé avec François Buton. Titre et sous-titre sont explicites. « Idées reçues sur les gilets jaunes, un marqueur des luttes sociales contemporaines ». Publié aux éditions Le Cavalier Bleu, cet ouvrage rassemble les analyses de politistes, sociologues, géographes et anthropologues. Alors voyons maintenant comment connaître et comprendre les soulèvements de la Terre. Pour nous en parler, j'ai invité Jean-Jacques Fresco. Il est membre des soulèvements de la Terre et journaliste. Vous avez peut-être repéré dans les premières pages de la Gazette de Montpellier sa chronique « C'est tout naturel ». D'une plume tranchante, il pourfend les bobards et les faux-semblants de la préservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Il va intervenir dans une des tables rondes de la rencontre régionale sur le thème « Liberté publique, des droits à défendre et à développer » organisée par la Ligue Droits de l'Homme à Montpellier le samedi 12 octobre prochain. J'y reviendrai. Jean-Jean Fresco, merci de venir au micro de Divergence. Et d'abord, vous connaissez le principe de l'émission, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part aux portées de notre ville, brossées collectivement, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier, connus ou méconnus, que vous appréciez particulièrement?
Alors, il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est le quartier Malbosque, le parc Malbosque. Alors déjà, je l'aime beaucoup parce qu'il vient d'être...
Il n'est pas très connu.
Il est relativement peu connu. Il vient d'échapper à un projet d'urbanisation un peu délirant suite à une mobilisation des riverains, mais d'autres aussi, plus largement. Déjà, c'est appréciable.
Alors, le projet d'immobilier a été complètement annulé ou revu à la baisse?
Alors, il a été... Il n'est plus dans le PLU.
Ah, c'est ça.
Reste...
En PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal.
Plan local d'urbanisme intercommunal, voilà. Donc, il est abandonné, effectivement. Un projet de centre sportif sur lequel il faut rester un peu vigilant. Néanmoins, au-delà de la lutte...
Il y a un parc, donc, qui est en gros entre le quartier de Malbosque et la Paillade, pour situer à peu près le... l'endroit.
C'était l'endroit magnifique, c'était l'endroit où la ville et la campagne se touchent, se côtoient, s'interpénètrent. C'était l'endroit de biodiversité juste aux portes de la ville. On est juste en lisière, en bordure, il y a le lycée Jean Monnet et le conseil départemental.
Et une ligne de tram pas très loin aussi. Oui.
Et deux lignes de tram, voilà. On est en ville et en même temps, quand on s'y balade, on est loin. On est,
voilà. Alors, il y a des chemins piétonniers ou cyclistes qui sont aménagés. Mais avec des équipements de faible taille. Quoi.
C'est aménagé. Il y a un petit endroit pour promener le toutou. Voilà. Mais c'est très light comme aménagement. C'est un aménagement qui permet à tout un chacun, y compris des personnes à mobilité réduite, de pouvoir s'y balader. Et c'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup pour aller marcher, courir. Les
auditeurs vont profiter de ce conseil.
Je ne devrais pas le dire parce qu'il faut que ça reste un peu caché. Mais...
bon, on verra s'il y a un afflux ingérable. Et alors, par ailleurs, quand vous recevez des amis ou des membres de votre famille qui sont de passage ici à Montpellier, que leur dites-vous de la ville ? Selon vous, en quoi Montpellier se caractérise parmi ce qu'on appelle les grandes métropoles, hein, ce qui a, pour le dire d'une autre manière, un style de Montpellier, une manière particulière, urbaine, hein, qui serait celle de notre ville ?
Alors, j'aurais tendance à dire de moins en moins, et je le déplore un peu. Je déplore une forme de normalisation, d'uniformisation.
De forme urbaine qu'on trouve ailleurs, notamment ?
Oui, de manière d'habiter. De façon d'habiter la ville qui ne permet plus ou permet moins l'expression d'un territoire dans la façon dont les gens habitent. De ce point de vue-là, Montpellier n'y échappe pas, je le déplore, ça reste une ville où il fait bon vivre, où il fait bon vivre quand on a quelques sous quand même, hein, quand on a quelques moyens. Hein, voilà. Mais ça, c'est vrai aussi des autres métropoles.
De la plupart des grandes villes. Très bien. Alors, maintenant, au sujet qui nous réunit aujourd'hui, il y a peut-être Jean Fresco, donnez-nous quelques repères. D'abord en nous disant comment les soulèvements de la Terre sont-ils nés, de quelle analyse de la situation cette initiative a-t-elle procédé ?
Alors, les soulèvements de la Terre, on sait quand ils sont nés, même si juridiquement ils n'existent pas vraiment.
Oui, puisqu'on va le voir, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'association qui s'appellerait Soulèvement de la Terre.
Non, le premier document officiel juridique dans lequel sont mentionnés les soulèvements de la Terre, c'est le décret de dissolution pris par M. Darmanin
on va y venir
en juin 2023. On y viendra, je pense, oui. Les soulèvements de la Terre, c'est une espèce de convergence autour d'un constat qui est celui de la privatisation, de l'accaparement, de l'artificialisation galopante des terres agricoles et des terres naturelles.
On l'a évoqué un peu à propos de Malbos, là, de toute façon,
c'est
à
ça,
l'instant.
C'est ça, on en est bien dans le ton. Les mouvements de la Terre, le soulèvement de la Terre est né en janvier 2021 d'un appel. Je cite, un appel à reprendre les terres et à bloquer les industries qui les dévorent. Un appel signé par une trentaine d'organisations, et c'est important de le dire, d'organisations du monde paysan.
Hein. Oui, donc une espèce de légitimité.
Oui, c'est le mouvement qui
s'appuie
vient de la terre.
Sur l'engagement d'un certain nombre d'agriculteurs qui sont dans la même démarche.
Dans cet appel, il y avait des organisations, il y avait 70 fermes qui l'ont signé, des collectifs, etc. Des soutiens, des chercheurs, des auteurs, des prix Nobel, qui ont rejoint cet appel. Et je le redis, en étant janvier 2023, donc c'est tout récent, tout neuf. C'est un mouvement un peu balbutiant, un peu.
Oui, qui cherche ses marques, enfin en tout cas qui émerge, qui grandit. D'ailleurs.
Qui émerge, qui grandit, et on ne saurait trop remercier Monsieur Darmanin pour le coup de main puissant qu'il a donné à la croissance des soulèvements de la Terre. Là encore, on va y venir, je pense.
Alors, pas parenthèse, je le dis au passage, c'est même chose pour le Ligue de l'Homme qui a été l'objet d'attaques frontales du ministre de l'Intérieur, ce qui a conduit à un afflux de nouveaux adhérents à la Ligue. Donc, même topo. Mais on y reviendra là-dessus, sur cette histoire. Mais en tout cas, ça a joué un rôle important, je dirais, dans la notoriété des soulèvements de la Terre et dans la capacité pour ce mouvement d'attirer de nouveaux membres, de nouveaux militants.
Alors, comme directeur de la communication, Darmanin, on l'embauche tout de suite. Effectivement, il est top de ce point de vue-là. Et alors, on peut raconter peut-être comment cette notoriété a cru aussi du fait de la répression qui, immédiatement après la création, après cet appel de janvier 2023, la répression a frappé ce grand mouvement d'opinion qui était en train de naître. En mars 2023, tout le monde s'en souvient, il y a eu cette manifestation à Sainte-Soline. C'était quoi Sainte-Soline ? Eh bien, c'était une mobilisation contre l'expression de ce de quoi les soulèvements de la Terre sont nés, c'est-à-dire l'accaparement par des intérêts particuliers, des intérêts privés et des intérêts prédateur et mortifère. Pourquoi prédateur et mortifère ? Même parce qu'il s'agit d'accaparer une ressource commune, l'eau, au profit de cultures qui ne sont pas des cultures vivrières ou des cultures maraîchères, etc., mais qui sont des cultures industrielles.
Ouais, l'agro-industrie dans toute
ça. C'est de l'agro-industrie. Et il s'agit d'utiliser cette ressource pour irriguer du maïs, ce qui est quand même une aberration totale dans la mesure où le maïs, c'est une plante tropicale qu'on importe dans des régions qui ne le sont pas, ou pas encore, qui nécessite énormément d'eau au mois d'août, c'est-à-dire
au pire moment.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et que disent les maïsiculteurs ? Ils disent, oh, ben, c'est pas grave, la flotte, on va aller la piquer là où elle est, c'est-à-dire on va la piquer à tout le monde, on va se l'accaparer pour nous dans des méga-bassines, ces fameuses méga-bassines, et on va continuer notre business pour faire pousser du maïs qui sert à l'élevage industriel. Et c'est contre ça que est née cette mobilisation contre les méga-bassines, qui en plus sont le plus souvent réalisées de façon illégale, et est arrivée cette manifestation de Sainte-Soline qui a été très soigneusement scénarisée par le ministre de l'Intérieur, qui...
Par avance, donc. Par des déclarations successives qui ont précédé la manifestation.
Ouais. Monsieur Darmanin a déclaré pendant plusieurs jours qu'il y aura des scènes de guerre. Et il a tout fait pour qu'il y ait des scènes de guerre, c'est-à-dire qu'il a envoyé des militaires, des gendarmes, avec du matériel de guerre, et qui, alors, sciemment ou par erreur, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais tout porte à croire que c'était sciemment, en tout cas toutes les conditions ont été créées pour que ça se passe comme ça, ont déclenché effectivement
des violences
lourdes, graves, des atteintes manifestes à l'intégrité physique, à la sécurité des personnes qui étaient venues manifester pacifiquement, en famille, avec des gamins, etc. Il y a eu des blessés, on a empêché les secours d'accéder aux blessés.
En tout cas, on a retardé leur arrivée.
On les a sciemment bloqués sur ordre de la salle de commandement de la police pour qu'ils ne puissent pas accéder à ces blessés. Bref, et une enquête est en cours par le parquet qui commence à révéler qu'il y a eu des exactions très clairement assumées par les forces de l'ordre. OK.
Dans les jours qui ont suivi, déclenchement de l'opération anti-soulèvement de la terre.
Monsieur Darmanin dit, je vous l'avais bien dit, j'avais bien dit que ces gens étaient violents, puisqu'on leur a tapé dessus, c'est bien qu'ils sont violents. Et donc, on va dissoudre. Et il a annoncé tout de suite la dissolution de ce mouvement qui n'était pas créé. Qui n'avait pas d'existence légale, ce qui était un peu baroque. Ce caractère baroque n'a pas échappé à la première ministre de l'époque, Madame Borne, qui a freiné les cas de fer.
Qui n'a pas enclenché véritablement ou appuyé.
Qui a refusé. Qui a refusé de signer le décret de dissolution.
Et le président de la République, dans cette affaire, quelle a été son attitude ?
Alors, là-dessus, le président de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau, est allé se lamenter auprès de M. Macron contre le fait que ces gens, quand même, qui contestaient le droit d'accaparer l'eau, puissent encore prendre la parole dans le débat public. Et M. Macron a exigé la dissolution. Donc, en juin 2023, ce décret de dissolution a été pris. Il a été contesté en référé devant le Conseil d'État, puis au fond, et ce décret qui était d'une illégalité flagrante, totale,
mal fichu, juridiquement
infondé, et qui était de la pure communication, mais qui emmène ce type d'action illégale. Emmène notre pays vers une, entre guillemets, démocratie illibérale. Enfin, on se rapproche des pratiques de M. Orban en Hongrie ou du trumpisme. Faut bien avoir ça en tête. Et donc, aujourd'hui, grâce à cet épisode, Pour ma part, personnellement, j'ai rejoint le comité local de Montpellier des soulèvements de la terre au moment de la dissolution.
Oui, parce que ça a
c'est
été...
C'est ça qui m'a indigné.
Ça a activé l'attractivité du mouvement.
Complètement. C'est la raison pour laquelle je remercie M. Darmanin du sérieux coup de main qu'il nous a donné.
Alors, bon, on a compris quand l'importance de cet épisode, qui n'était pas anecdotique de Coco, mais particulièrement significatif. Alors, pour aller un peu plus loin, même si le temps file, je crois que ça vaut le coup de revenir sur cette accusation d'éco-terrorisme, dont le même ministre, Gérald Darmanin, a abreuvé les médias pendant des jours.
Alors, c'est parfaitement cohérent avec ce scénario que je viens de vous décrire. On criminalise un adversaire qui défend l'intérêt général, qui défend l'intérêt commun contre la privatisation de biens communs par des lobbies et des intérêts particuliers. D'un autre côté, est-ce que vous avez entendu parler de l'idée, de l'évocation d'une dissolution de la FNSEA ?
Pas vraiment.
Non.
Peut-être comme j'étais inattendu.
Oui, c'est bon. Ça. Et pourtant, en avril 2023, une permanence parlementaire est ciblée pour la troisième fois en six mois par la FNSEA. En février 2023, un agriculteur fonce sur des gendarmes mobiles en marge d'une manifestation de la FNSEA, pas très loin d'ici, à Nîmes. En septembre 2017, 300 agriculteurs de la FNSEA bloquent les Champs-Élysées. Voilà. Et ça, c'est pas du terrorisme. Ça, c'est normal. C'est l'expression normale de ces braves gens qui souffrent beaucoup. Ça, vous savez. Bon. Alors, je ne nie pas que beaucoup d'agriculteurs sont dans une situation très difficile. Voilà. Mais les postures, les positionnements de la FNSEA en sont en grande partie responsables. Le président de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau, c'est exactement la figure de l'assassin qui a encore le flingue fumant entre les mains et qui vient vous présenter ses condoléances. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la FNSEA est au cœur du système de l'agro-business qui étrangle et qui pousse au désespoir un grand nombre d'agriculteurs. Et dans le même temps, on vient nous expliquer qu'on défend les intérêts des agriculteurs. Et
donc, haro sur les méchants agriculteurs ou autres qui se battent pour leur survie ou pour le devenir de notre terre.
Ou pour les biens communs, simplement.
La dénomination infamante d'éco-terrorisme dans un raccourci, un rapprochement avec le terrorisme sanglant que nous avons connu et qui a donc une méthode manipulatoire dont le ministre de l'Intérieur s'est abondamment servi.
Alors que le Conseil d'État a bien cherché au moment de trancher sur la dissolution. Et on n'a rien trouvé qui relève de quelque façon que ce soit du terrorisme. Il y a quelques atteintes aux biens, certes, mais des atteintes aux biens. Par exemple, on a déplanté à Nantes des plants de muguet industriel. Bon, il n'y a pas d'atteinte aux personnes. C'est ça, le terrorisme. Les dégradations de biens, ce que, dans le langage des soulèvements de la terre, on appelle le désarmement de l'agro-industrie, de l'agro-business, ça ne relève en rien du terrorisme, contrairement aux actions aux actions récurrentes de la FNSEA ou de la coordination rurale.
Alors, la criminalisation de certaines actions, on l'a vu aussi dans la lutte contre le projet de l'autoroute à 69, c'est pas très loin de chez nous, donc entre Castres et Toulouse. Et d'abord, peut-être parce que ça n'a pas été toujours révélé ou expliqué dans les médias, qu'est-ce que l'action de militants et aussi de journalistes a démontré, preuve à l'appui, sur l'origine de ce projet et sur les conditions. Il a été puissamment appuyé par quelques barons économiques ou politiques locaux.
Barons et baronnes.
Baronne, oui.
N'oublions pas Madame Delga. Mmh. N'oublions pas les politiques, le personnel politique tarné, qui, là encore, obtempère aux injonctions liées aux intérêts particuliers d'une entreprise, qui est le laboratoire Pierre Fabre, installé à Castres. Et Pierre Fabre a œuvré, a financé des campagnes, a financé des cabinets de communication plus ou moins occultes pour imposer ce projet d'autoroute qui ne bénéficiera qui baigne exclusivement à l'industrie de Pierre Fabre, hein, parce que...
Exclusivement, pas tout à fait, mais principalement, en tout cas, oui. Parce que, bon, il y a des allers-retours entre les deux villes des particuliers pour utiliser l'autoroute, pour gagner, je le rappelle, seulement 20 minutes dans ce trajet.
Pour gagner 20 minutes en contrepartie d'un péage exorbitant, alors qu'un autre projet consistait à doubler simplement
la nationale
existante. Mais qu'est-ce que ça révèle aussi ? Ça révèle l'impécuniosité des services de l'État, parce que doubler la nationale, il aurait fallu que les pouvoirs publics investissent, alors que là, on a donné les clés du camion à une entreprise privée qui se paiera grassement sur la bête et sur les usagers pendant, de mémoire, 50 ans, mais il faudrait vérifier.
En percevant
le péage. Voilà. Donc c'est ça aussi que ça dit de l'état de notre, entre guillemets, démocratie, ou de ce qu'il en reste.
Alors, un mot là-dessus, on a parlé de répression. Voilà, elle s'est manifestée là aussi sur cette affaire de chantier de la 69. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots là,
le même scénario que Sainte-Soline et que d'autres. Il y a des gens qui, pour faire respecter le droit, et notamment pour empêcher que des arbres soient illégalement abattus sur le trajet de l'autoroute, vont s'installer dans les arbres. Est-ce que c'est extrêmement violent d'aller s'installer dans des arbres ? À qui ça porte grief, hein ? On envoie la gendarmerie, là encore, avec des engins de guerre. On incendie les terrains sur lesquels ils sont. On les aveugle la nuit pour qu'ils ne puissent pas dormir là-haut dans leurs arbres. On va les déloger de façon violente et on dit, regardez, pour les déloger, il a fallu utiliser la violence. Vous voyez bien que ce sont des gens violents. Et on est encore dans ce que vous décrivez,
le même scénario,
c'est-à-dire le scénario de la criminalisation.
Alors, poursuivons, peut-être pour donner une autre vue sur ce que sont les soulèvements de la terre. Les soulèvements n'agissent pas seulement contre, mais également pour. Et sous quelle forme prend ce type d'action ?
Alors,
du côté d'initiative, oui, ou de contribution au débat public,
oui,
je dirais.
Voilà. On juge important de pouvoir s'opposer à des projets délétères. On juge important aussi de pouvoir nourrir le débat public, par exemple, en invitant des autrices ou des auteurs de livres, d'essais, Récemment, on a invité avec la librairie La Cavale Nilo Magalès, qui a écrit un bouquin, justement, vous parliez de la 69, qui s'intitule Accumuler du béton, tracer des routes, sur cette frénésie très française de
l'infrastructure routière.
L'infrastructure routière, y compris inutile, et en tout cas très, très dommageable à la biodiversité. On reçoit cette semaine Jean-Baptiste Fresseuse, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Sans transition », qu'il aurait pu appeler « Transition piège à con », dans lequel il démontre qu'il n'y a pas de transition énergétique et que quand on dit qu'on substitue des énergies nouvelles à des énergies fossiles, ce n'est pas vrai du tout. Certes, on multiplie actuellement le solaire ou l'éolien, mais on n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2024.
Vous dites cette semaine, c'est quand exactement ce rendez-vous à La Cavale ?
Cette semaine, c'est le 9 octobre.
D'accord.
C'est pas à La Cavale, c'est à la Maison des Sciences
de l'Homme. À la Maison des Sciences de l'Homme, donc à l'antenne en centre-ville.
À Saint-Charles, à 17h30.
De l'Université Paul-Valéry.
Voilà. Et puis, en janvier, on recevra l'autrice d'un ouvrage sur la nouvelle tarte à la crème de la, entre guillemets, transition énergétique, qui est l'hydrogène. Et on recevra aussi Julie Chancel, qui est une journaliste montpelliéraine et qui vient de réaliser un documentaire qui est passé sur France 3 sur ce sujet de l'hydrogène.
Toujours à La Cavale ?
A priori à La Cavale.
D'accord. Donc, consultons le site internet de la librairie coopérative La Cavale. Alors, peut-être pour boucler la boucle, un mot sur le comité local des soulèvements de la terre et de ses actions. Et peut-être aussi, dites aux auditeurs et auditrices qui seraient intéressés, comment vous rejoindre.
Alors, le comité local des soulèvements de la terre, il ressemble, j'imagine, aux autres comités locaux, mais je ne connais que celui-là. Il rassemble des gens un peu de tous âges, de tout milieu, de toute...
De poil.
Comment ?
De tout poil.
De tout poil et de toute plume, si vous voulez. De toute catégorie sociale, qui ont deux points communs. Un, cette idée de préserver le commun, les biens communs, et deux, qui sont de l'extrême pacifisme. Et ça, c'est la tarte à la crème contre laquelle il faut lutter, parce que Darmanin nous a collé un costard, comme vous l'avez dit, nous a taillé un costard d'éco-terroristes. Or, j'ai rarement rencontré de gens plus pacifistes que les gens du comité local des soulèvements de la terre de Montpellier. Et pour nous rejoindre, il y a une adresse mail. Alors, c'est soulèvement au pluriel -montpellier @framaliste, FRAMALISTES, donc au pluriel, .org. Soulèvement-montpellier@framaliste.org.
Très bien. Alors, merci, donc Jean-Jean Cofresco, de ce tour d'horizon. Vous avez évoqué les idées reçues dans le Code Folité, vous en avez cité une. Et donc, pour terminer cette émission, je reviens à ce que j'ai annoncé au début, votre contribution prochaine ce samedi à une rencontre régionale ouverte au public organisée par le comité Languedoc-Roussillon de la Liberté de l'Homme sous le titre « Liberté publique, des droits à défendre et à développer ». Elle est organisée par la Ligue des droits de l'Homme donc, le 12 octobre prochain, samedi de 14 à 19h, à Montpellier, salle Guillaume de Nogaret, place du professeur Mirouz. Pour être clair, j'indique au passage que je suis membre de la LDH. Lors de cette réunion d'information et de réflexion, outre la liberté associative, la liberté de manifester, nous l'avons évoqué, la liberté syndicale, la liberté de s'informer et d'informer, les libertés pour la jeunesse y seront débattues dans des tables rondes successives. La présidente nationale du Droit de l'Homme, Nathalie Théillot, mettra ces sujets en perspective. Ce sera sa première venue à Montpellier depuis son élection en mai dernier, donc rendez-vous samedi. Salle Guillaume de Nogaret, amis auditrices, amis auditeurs, à la semaine prochaine.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.